320 000 personnes et 1 800 artistes le long des quais de Seine pour une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris exceptionnelle. Retour sur cet événement dans un instant. C'était incroyable d'avoir vécu ce moment dans ce journal, le témoignage de notre triple championne olympique calédonienne Félicia Ballanger qui était parmi les tout derniers porteurs de la flamme. En métropole, le réseau TGV paralysé par 3 actes de sabotage d'envergure. Des centres de signalisation ont été incendiés. 800 000 passagers ont été bloqués dans les gares. La nuit a été relativement calme dans Nouméa et l'agglomération. Des détonations ont toutefois été entendues à 4 h ce matin à Auteuil. Et puis le sport toujours avec les sports mécaniques et la suite du championnat du monde de Formule 1. Les pilotes sont à Spa-Francorchamps en Belgique.
Je proclame ouverts les Jeux de Paris, célébrant la 33e Olympiade des temps modernes.
Les mots d'Emmanuel Macron ce matin pour nous lors de l'ouverture officielle des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Cérémonie incroyable, impressionnante, extraordinaire. Les qualificatifs ne manquent pas ce soir pour décrire ce spectacle sur 6 km le long de la Seine, offert au monde entier par les organisateurs de cette cérémonie. 320 000 spectateurs, 1 800 artistes et malgré la pluie battante, de grands moments d'émotion collective que nous raconte Marie Jiquel pour Europe 1.
Une fresque grandiose, un spectacle historique porté par un défilé de stars mis en scène de façon plutôt inhabituelle et cela a apporté un vent de fraîcheur à commencer par Zidane, Zizou qui ouvre le show, flamme olympique dans le métro, suivi par Lady Gaga cachée par des plumes roses géantes pour reprendre Zizi Jeanmaire. Scène improbable, ce duo entre Aya Nakamura et la garde républicaine entonnant Charles Aznavour. Alors que toutes les délégations ont traversé Paris, c'est au tour de Juliette Armanet et du pianiste Sofiane Pamar d'interpréter cet hymne à la paix signé John Lennon. Argenté galopant sur la scène pendant plusieurs minutes, cette folle envolée annonce le final et tandis que la vasque olympique nichée dans une montgolfière s'élève après avoir été allumée par Marie-Josée Pérec et Teddy Riner, une autre lumière s'illumine sur la tour Eiffel pour un moment magique.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer.
Céline Dion, au repos forcé depuis 4 ans, pour clore une cérémonie rythmée, très théâtrale, qui, de l'opéra Carmen au groupe de métal Gojira, a placé Paris et la culture française au centre du monde.
Reportage de Marie Jiquel pour Europe 1 et du côté des très nombreux spectateurs qui s'étaient massés le long des quais. L'enchantement est total après une cérémonie qui, pour la première fois, ne se déroulait pas dans un stade et qui, visiblement, restera dans les mémoires.
On a vécu une magnifique cérémonie d'ouverture, un peu de pluie, beaucoup de pluie, mais c'était magnifique, tous réunis autour du sport et donc c'était vraiment génial.
Très belle cérémonie, très belle réalisation, diversité, franchement la diversité des tableaux était magnifique et franchement l'ambiance qu'il y avait sous la pluie et on a bien bougé.
C'était grandiose, spectaculaire et rassembleur.
C'était incroyable, vraiment j'ai jamais vécu une soirée aussi magnifique.
On était extrêmement contentes, on avait l'impression de vivre un truc qu'on ne vivrait plus jamais dans notre vie.
Le chevalier masqué, c'était fou.
Moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une très très belle représentation de plein de cultures différentes. Il y avait une grande diversité, plein de choses hyper contemporaines. Aya Nakamura qui a fait un show golden, c'était impressionnant. Plein de choses qui ont été amenées, tous les clichés de la culture française, mais qu'on a eu plaisir à voir avec le défilé aux coutures, l'accordéon, enfin voilà, tout était là.
J'ai adoré Marie-Jo Pérec, Teddy Riner, à la fin, la flamme qui s'en va dans le ciel, toute la symbolique et évidemment Paris, la ville de l'amour.
Céline, quand même, à la fin, c'était merveilleux, quoi.
Et dans le dernier carré des porteurs de la flamme, je vous le disais, au cours de cette cérémonie, une triple championne olympique en cyclisme sur piste qui vit depuis de très nombreuses années en Nouvelle-Calédonie, Félicia Ballanger, que nous avons joint par téléphone, raconte son émotion à Michael Gineski.
C'est un petit peu incroyable d'avoir vécu ce moment, en fait. C'est vraiment un moment incroyable, évidemment, qui ne se reproduira pas. Donc, vraiment contente d'avoir participé participer à cette dernière séquence avec d'autres sportifs. Une belle mise en valeur des anciens sportifs. Déjà, l'originalité, le fait de ne pas être dans un stade, ça, c'est clair que ben c'était magnifique, quoi. Le fait d'être... j'ai pas tout vu, hein, parce que effectivement, quand on était dans un endroit, on n'était pas ailleurs. Mais moi, j'étais au pied au début de la cérémonie, en tribune présidentielle, au pied de la Tour Eiffel, et c'était incroyable, quoi. Donc, c'était vraiment une vue magnifique. Je pense que c'était vraiment un bon choix de la part du comité d'organisation.
Porter à nouveau la flamme olympique, mais dans la dernière ligne droite, hein, juste avant l'allumage de la vasque olympique, quel effet ça a fait ?
Eh bien, j'ai appris la nouvelle au dernier moment, hein, puisqu'on a eu le scénario final dans la dernière heure, hein, qui précédait la séquence. Après, je sais que je devais arriver à Paris un peu plus tard, uniquement pour les épreuves de cyclisme sur piste. Et puis, Anthony Estanguet a souhaité que je sois là dès la cérémonie, donc... on se doutait qu'il y avait quelque chose de programmé pour les sportifs, mais personne ne savait rien, en fait.
Un message pour tous les Calédoniens qui suivent ça de loin.
Oui, écoutez, maintenant, les jeux sont ouverts, donc on va suivre avec attention les 5 Calédoniens qui sont en lice pour ces Jeux Olympiques. Et puis, je leur souhaite une pleine réussite et de vivre de grands moments de sport.
Le témoignage de Félicia Ballanger recueilli au téléphone il y a quelques instants par Michael Gineski. Et parmi les grands moments d'émotion de cette cérémonie, je ne résiste pas au plaisir de vous faire entendre ou réentendre cette Marseillaise exceptionnelle interprétée depuis le toit du musée d'Orsay par la mezzo-soprano guadeloupéenne Axelle Saint-Cyrel. Extrait. Voilà donc pour cette cérémonie totalement hors norme et les Jeux 2024 peuvent donc commencer. Place désormais à la compétition, nous y reviendrons dans la page sportive de ce journal.
RRB 17h54.
L'actualité en Nouvelle-Calédonie où peu d'exactions sont à signaler depuis le début du week-end dans Nouméa et l'agglomération à Dimbéa. Cependant, la nuit a été relativement agitée. Plusieurs détonations ont été entendues aux alentours de 4 heures ce matin dans le quartier des Collines d'Auteuil. Des débris en feu jonchaient la route entre Auchan, Auteuil et Leader Price. Ils ont été dégagés par les forces de l'ordre. Au Mont-d'Or, la nuit a été relativement calme. Un début d'incendie a été maîtrisé hier soir sur le fitness park et des branchages dégagés de la chaussée à la Conception. La matinée a été un peu plus animée. La CCAT manifestait ce matin devant la gendarmerie de Ploumes. Aucun débordement n'a toutefois été constaté. Dans le reste de l'actualité, l'école filante Montessori ouvrait ses portes au public ce matin à Nouméa. Objectif, préparer la rentrée 2025 en présentant l'école aux parents intéressés. L'établissement situé au Récivigne accueille les enfants de 3 à 12 ans et compte pour l'instant 2 classes de 20. Un effectif qui est amené à évoluer, comme l'explique Émilie Poilpré, directrice de l'établissement.
C'est justement l'objet de cette journée, de voir la tendance pour l'année prochaine. Il y a des départs, il y a des arrivées, il va y avoir un renouvellement, c'est sûr et certain. Des gens, c'était pas prévu qu'ils partent, qui doivent partir, et puis des gens qui n'avaient pas prévu de venir et qui finalement vont être demandeurs. On a reçu des demandes d'enfants en cours de cycle, pas mal de grands, ce qui était assez inhabituel. Est-ce que c'est le fait qu'on travaille beaucoup, le vivre ensemble, on fait des ateliers philo, on discute de diversité, de partage, de mélange, on est sur du social à 200% dans la façon dont on travaille? Est-ce que c'est ça qui parle aux gens? J'en sais rien. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on continuera de faire plus que jamais.
Au programme aujourd'hui, de nombreux ateliers organisés par les enfants, l'occasion pour eux de montrer leur savoir-faire en cuisine, en jardinerie ou même en trésorerie, puisque ce sont eux qui vendent leurs produits et organisent leur budget. De son côté, le Conservatoire de musique et de danse de Nouvelle-Calédonie a lancé ce soir sa saison artistique. Premier spectacle des petits violons qui entrent dans le cadre des 50 ans du Conservatoire. Les petits violons proposaient un florilège qui mêle musique traditionnelle tzigane, tango, folk, musique de film, jazz, rock, baroque ou encore classique. Un concert très attendu du public venu nombreux pour la reprise artistique du Conservatoire. Témoignage.
bien aimé. Et honnêtement, la dernière chanson, elle a fait pleurer carrément. Beaucoup d'émotions. La chanson de Michael Jackson, Nous sommes le monde, en fait. Et les enfants ont vraiment exprimé le souhait d'être ensemble.
J'ai ressenti beaucoup d'émotions, de plaisir déjà de voir toutes les ethnies du territoire représentées. C'était vraiment émouvant parce que comme on vit actuellement des événements déchirants, je pensais en fait que c'était vraiment une belle réconciliation en fait, que l'art et la musique en fait.
Franchement, on a trouvé ça très touchant parce que sur scène, il y avait beaucoup de styles différents entre la chorale de marée, le mélange avec les violons, les jeunes, les anciens, les enfants qui chantent. Ça avait presque versé notre petite larme. Quand je dis presque, en fait, on a versé notre petite larme, j'avoue.
Ça fait du bien de pouvoir ressortir, de pouvoir... Puis la musique, c'est vrai que ça permet de lier les gens. Et donc, c'est génial de recommencer en musique.
Voilà, et le prochain spectacle proposé au Conservatoire de musique et de danse de Nouvelle-Calédonie, ce sera le samedi 24 août prochain. Le mini-marché Broussard revient, lui, dès demain à Boulary. Cela fait maintenant plusieurs semaines que le marché municipal a repris sur le Mont d'Or. Demain, ce sont donc 25 exposants venus de Brousse qui seront présents. L'occasion de retrouver des produits comme les clémentines ou les oranges de la foi, par exemple. Explication Olivier Surgeon, le coordinateur du marché Broussard.
Alors demain, on a prévu un mini-marché Broussard. Ça nous permet d'aller chercher des gens d'un petit peu plus loin, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur notre marché. On aura des fruits et légumes, on aura des produits vivriers, de la mer qui nous arrive de la foie normalement. On aura de la viande, les fameux saucissons de cerf également qui seront présents. L'idée là, c'est de faire vraiment un bon coup et des bonnes affaires directement du producteur au consommateur. Puis on a toujours notre buvette avec notre bonne humeur, on peut boire un café, passer un moment. On a un groupe de musique qui viendra animer aussi le marché. Comme ça, on aura cette petite ambiance joviale des marchés, comme on aime les retrouver ici en Calédonie.
Un rendez-vous qui deviendra normalement mensuel. Le marché lui a repris progressivement il y a plusieurs semaines déjà, d'abord avec un programme aménagé. Il a maintenant retrouvé ses horaires habituels du mercredi au dimanche de 6h à midi avec une prolongation jusqu'à 17h le vendredi. À noter également que beaucoup d'exposants ont quitté le marché suite aux exactions sur le territoire. Des places pour la vente sont donc disponibles. 17h59 dans un instant, la suite de l'actualité en métropole.
Savez-vous que quand plusieurs appareils sont branchés au même endroit, il est préférable de les brancher sur une multiprise équipée d'un interrupteur ? On peut ainsi couper l'alimentation de tous les appareils d'un seul geste.
Retrouvez toutes les astuces EcoConso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Préservez votre habitation contre les termites avec Formula 4D.
Traitement de charpente, piège préventif et barrière chimique.
Déductible de vos impôts. Info sur formula4d.com.
À vos côtés depuis 40 ans.
La suite d'Info Week-end avec vous, Gilles Ménage.
Si la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris s'est déroulée sans incident, grâce notamment à la mobilisation de pas moins de 50 000 policiers et gendarmes dans la capitale, la SNCF a été victime en revanche d'une série de 3 actes de sabotage de grande ampleur sur son réseau TGV. 800 000 passagers se sont retrouvés bloqués dans les gares en ce grand week-end de chassé-croisé des vacances en métropole. Mais alors, que s'est-il passé ? Margot Faudéré pour Europe 1.
Ce sont 3 points stratégiques du réseau TGV qui ont été pris pour cible. Des gaines de câbles de signalisation incendiées simultanément à côté du Mans, d'Arras et de Metz. Des lieux précis qui précèdent des bifurcations. Autrement dit, un incendie touche 2 axes de destination. C'est aussi ce qui explique l'ampleur des perturbations. Dès hier matin, des opérateurs de la SNCF ont été mobilisés sur chaque poste incendié pour tester un à un les câbles de chaque armoire électrique et les remplacer si nécessaire. Avec des résultats à la clé, puisque 2 trains sur 3 vont circuler aujourd'hui vers l'ouest, 80% des trains sur l'axe nord, et le trafic revient même complètement à la normale sur l'est.
Évidemment, la question qui se pose ce soir est celle de la responsabilité de ces actes de sabotage. Selon les experts, il ne peut s'agir que de professionnels. Comme l'explique Arnaud Aimé, il est spécialiste des questions de transport ferroviaire.
La SNCF, évidemment, elle sécurise ces endroits-là, tout un ensemble de moyens qui évitent que ces lieux soient attaqués par des amateurs, entre guillemets. Donc là, on est très probablement en face de professionnels qui, en plus, se sont organisés et se sont synchronisés en amont.
Et notez que c'est la juridiction spécialisée dans la criminalité organisée qui a été saisie de l'enquête. Elle a été ouverte par la procureure de Paris pour détérioration de biens de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. L'actualité en métropole, c'est aussi ce rebondissement dans l'affaire de la disparition de Lina en septembre dernier en Alsace. La procureure de la République de Strasbourg a annoncé hier soir une avancée majeure dans cette enquête. L'ADN de la jeune fille de 15 ans a été retrouvé dans une voiture. Mélina Fachin pour Europe 1.
Dans un véhicule que les enquêteurs ont découvert récemment à la suite de longues et minutieuses investigations. Une voiture volée, précise le parquet, repérée près du lieu de la disparition de Lina ce jour-là, le 23 septembre 2023. Alors comment la jeune fille de 15 ans s'est retrouvée à bord de ce véhicule, c'est ce que les enquêteurs vont maintenant tenter de déterminer. Selon les informations d'Europe 1, à prendre avec beaucoup de précautions, l'homme au volant de cette voiture aurait été identifié, même si on n'en sait pas plus sur lui pour l'instant. Selon nos sources, il ne connaissait pas Lina, il n'était pas de la région, mais en croisant la jeune fille, il aurait, je cite, pété les plombs et l'aurait kidnappée. Toujours selon ses sources, l'homme se serait suicidé récemment. Tout cela n'est pas encore confirmé, mais en tout cas, selon le parquet de Strasbourg, ces nouveaux éléments marquent une avancée majeure dans l'enquête qui devrait permettre de localiser Lina. Depuis la disparition mystérieuse de l'adolescente il y a 10 mois, c'est la toute première piste sérieuse qui semble se dessiner. Elle va évidemment se préciser dans les prochains jours.
Les explications de Mélina Fachin, la correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est.
RRB 18h03.
L'actualité à l'étranger marquée par ces attaques verbales de Donald Trump contre celle qui est désormais son adversaire dans la course à la Maison Blanche, l'actuelle vice-présidente des États-Unis Kamala Harris. Lors d'un meeting de campagne en Caroline du Nord, l'ancien président et candidat républicain a traité son opposante démocrate, et je cite, de cinglés favorables notamment à l'exécution de bébés après leur naissance. Trump en roue libre donc, qui a également qualifié Kamala Harris de vieille femme à chat sans enfant. L'actualité dans la région Pacifique avec pour son premier voyage officiel depuis sa nomination, le nouveau commandant en chef des forces armées australiennes, l'amiral David Johnston, qui va entamer une brève visite régionale. Ce sera aux Fidji et au Vanuatu. Jean-Pierre Zajac.
Aux îles Fidji, l'amiral Johnston procédera à la livraison officielle de 14 véhicules de transport sur roues de type Bushmaster. Fabriqués en Australie, ces blindés seront utilisés par les forces armées fidjiennes lors de leurs opérations onusiennes de maintien de la paix. Au Vanuatu, où il se rendra ensuite, l'amiral Johnston présidera à la cérémonie de mise en service de la péniche de débarquement Sokomanu, ainsi nommée pour honorer le premier président de l'archipel, Ati George Sokomanu. Le bâtiment sera surtout utilisé pour venir en aide aux populations touchées par une catastrophe. Avant son départ, l'amiral Johnston a déclaré que son voyage allait lui permettre de consolider les liens qui unissent l'Australie à ses voisins insulaires du Pacifique Sud. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est précisément 18h05. Dans un instant, on repart pour les Jeux Olympiques du côté de la compétition cette fois.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux.
Spécial info jeu SMS sur RRB, le jeu du million 40-20 change de formule. Maintenant, c'est tous les 1500 SMS pile sur le compteur pour gagner 100 000 francs de bons d'achat à dépenser où vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Alors pour jouer, envoyez RRB par SMS au 40-20. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 40-20. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 40-20. Bonne chance.
RRB mobilisé, nous le devons à votre confiance et à votre fidélité. Toutes les équipes de Radio Rythme Bleu sont engagées à vos côtés pour vous informer, vous accompagner et vous aider dans ces temps difficiles.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés. Radio Rythme Bleu.
La suite du journal et tout le sport avec vous, Gilles Ménage.
Et on continue de parler de Jeux Olympiques. Côté sportif, Michael Gineski, les épreuves continuent ce soir avec peut-être déjà des espoirs de médailles pour le camp français.
Oui, et notamment dans les sports collectifs, puisque l'équipe de France masculine de rugby à 7 pourrait savoir dès ce soir si elle montera sur l'une des deux premières marches du podium. En effet, les Bleus joueront la demi-finale du tournoi olympique. Ce sera face à l'Afrique du Sud, avec dans le viseur, évidemment, une qualification possible pour la finale, synonyme à minima de médaille d'argent, si ce n'est un titre olympique. La demi-finale donc du tournoi masculin de rugby à 7 France-Afrique du Sud, programmée à partir de 00h30 ce soir pour nous. Notez déjà que l'autre demi-finale opposera à 1h du matin les Australiens aux Fidjiens et la finale se jouera demain à partir de 4h45. À venir également la nuit prochaine, du côté du cyclisme, les épreuves de contre-la-montre masculin et féminin. Départ de l'épreuve pour les féminines 23h30, puis pour les messieurs à 1h30 du matin. La première chance de médaille pour un Calédonien en natation, Maxime Grousset, sera aligné avec l'équipe de France sur le relais 4x100 mètres nage libre dans les bassins de la Paris Défense Arena. Le début des séries est programmé ce soir aux environs de 21h30 et la finale programmée demain matin à 6h44. Ce sera aussi le début des épreuves de badminton, d'aviron, de tir à la carabine, de tir au pistolet, de dressage pour le concours complet par équipe et individuel, d'escrime, de judo, de gymnastique, de tennis, de canoë-kayak, de tennis de table, de boxe, avec le retour notamment de la médaillée d'or de Rio 2016, la française Estelle Mosley chez les moins de 60 kilos. Il y aura aussi les épreuves de skateboard dans la discipline du street. Bref, un programme très riche. Et puis, côté sport collectif, l'équipe de France, messieurs de hockey sur gazon, affrontera ce soir l'Allemagne pour son premier match du groupe. Ça sera à suivre à partir de 2h du matin. Les Françaises joueront juste après face au Néerlandais. Ce sera à partir de 5h15. Du basket également. Et les Français qui affronteront le Brésil pour le compte du groupe B à partir de 2h15 du matin. En waterpolo, les Françaises qui retrouveront les Espagnols à partir de 3h30. Et puis, un grand rendez-vous déjà en handball. Les tenants du titre français retrouveront dès ce début de compétition le Danemark, c'est-à-dire un remake de la dernière finale des JO de Tokyo, d'entrée de jeu pour les champions olympiques français. Écoutez Lucas Karabatic, le capitaine de l'équipe de France.
Ça change pas énormément pour nous parce que l'équipe de France, ça fait de nombreuses années qu'elle arrive à chaque fois en tant que favorite sur des compétitions. Aujourd'hui, la différence, c'est qu'on est aussi attendu par notre public parce qu'on est chez nous. Mais il n'y a que des combattants dans cette équipe, donc je pense que mentalement, on est prêt.
France-Danemark, handball à suivre donc demain à partir de 6h. Au même moment, les footballeurs français retrouveront la Guinée pour le deuxième match du groupe A, toujours à partir de 6h ce dimanche.
Et notez que c'est Yann de Nouméa qui est aujourd'hui le gagnant de notre jeu de mémoire de jeu et qui remporte un bon carburant de 5000 francs offert par notre partenaire chez les Pacifiques. Nous vous demandions parmi ces athlètes français quel est celui ou celle qui a participé au plus grand nombre d'Olympiades. Vous aviez le choix entre Jeannie Longo, Mélina Robert-Michon ou Nicolas Karabatic. Et la bonne réponse était Jeannie Longo, la cycliste française à la longévité exceptionnelle, a participé à 7 Olympiades consécutives. Elle n'a pourtant été titrée qu'une seule fois, c'était en 96 lors des Jeux d'Atlanta. Rendez-vous demain pour une nouvelle question de mémoire de jeu sur RRB. Et puis, il y avait également dans l'actualité sportive, il y a également dans l'actualité sportive des sports automobiles avec la Formule 1. Une dernière course, donc, avant les vacances pour les pilotes. Michael Gineski, le 14e Grand Prix de la saison se déroule en Belgique.
Ouais, la Red Bull de Max Verstappen est-elle en train de perdre le chemin des premières places? Si le Néerlandais a déjà gagné 7 Grands Prix sur les 13 disputés cette saison, eh bien, il n'est plus monté sur la plus haute marche du podium depuis le 23 juin dernier. C'était en Espagne. À l'inverse, les McLaren sont bel et bien en train de se faire un nom. Le week-end dernier en Hongrie, Oscar Piastri s'impose devant Lando Norris, son coéquipier. Au Grand Prix précédent en Angleterre, c'était Lewis Hamilton qui l'avait emporté devant Max Verstappen et Lando Norris, déjà troisième. Avant cela, sur les terres des Red Bull en Autriche, George Russell avait décroché la victoire, suivi d'Oscar Piastri. Verstappen terminant alors hors podium. Alors pour ce Grand Prix de Belgique, on peut s'attendre à retrouver un Verstappen revanchard. Certes, le leader du championnat du monde garde une avance confortable en tête du classement, mais dans son sillage, on a pris goût à mettre le triple champion du monde hors jeu sur le circuit de Spa-Francorchamps. Le Néerlandais avait notamment réalisé le meilleur chrono lors de la première séance d'essai libre avant de voir une nouvelle fois les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri reprendre l'avantage sur la deuxième séance d'essai libre. Pas sûr qu'ils l'entendent ainsi pour les qualifications à venir ce soir, d'autant plus que la météo et la pluie pourraient faire leur apparition ce week-end en Belgique. La pole position pourra donner un large avantage en cas de perturbation demain soir. Le Grand Prix de Belgique sera lui à suivre ce dimanche, départ à minuit, heure de Nouméa.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainé par Shell et Pacifique. Shell, un nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2024. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Le sport en Calédonie à présent et on parle haltérophilie, Mickaël, avec la Ligue qui rassemblait les pratiquants ce samedi.
Après plusieurs semaines sans compétition, un challenge de l'avenir organisé au Mont d'Or. Une trentaine d'athlètes qui ont répondu présent. Le mot d'ordre pour les clubs, c'est de préserver la bonne dynamique sur laquelle était la discipline avant le début des troubles pour le sport en Calédonie. Kevin Légutine est le président de la Ligue calédonienne d'haltérophilie.
Le rassemblement de tous les clubs pour relancer la dynamique, recréer la cohésion qu'on avait avant ces événements. Une journée exceptionnelle. 33 compétiteurs qui se sont engagés, donc un record depuis qu'on a repris les compétitions en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est dire l'attente des athlètes et l'engouement qu'ils ont eu pour cette journée. Donc une journée totalement réussie avec du spectacle, une cohésion vraiment magnifique. Ben, la suite pour nous, ça va être la préparation pour les mini-jeux à Palau. Même si le flou au niveau financier persiste dessus, nous on va dans tous les cas préparer nos athlètes, notre team présélection pour pouvoir arriver sur cette échéance si elle a lieu. Le mieux préparé possible. Donc le calendrier, ça va être des compétitions qualificatives, des stages de présélection, des stages de sélection, avec en ligne de mire donc les mini-jeux en juin 2025 à Palau. Il faut garder l'optimisme, c'est comme ça qu'on va pouvoir sortir la tête de l'eau. Notre motivation à nous n'a pas été ébranlée, bien au contraire. On est motivé plus que jamais et on sait que c'est par les valeurs que le sport véhicule notamment qu'on pourra reconstruire quelque chose de solide et d'efficace. Et
Kevin Lécuitine, président de la Ligue calédonienne d'haltérophilie. Les compétitions du championnat doivent reprendre pour les pratiquants calédonien dès les prochains mois.
Et côté sport de raquette, Mickaël, les championnats territoriaux de padel débutent ce week-end.
Deux week-ends de matchs dans la bonne humeur. De nombreux inscrits, 68 duos chez les messieurs, 32 paires chez les dames. Les tournois pour réaliser ces qualifications ont débuté aujourd'hui au club du receiving et au club de l'Olympique de Nouméa. Les matchs continueront encore demain. Les titres territoriaux seront décernés le week-end prochain. L'important pour les joueuses et les joueurs, c'est de partager un moment convivial autour d'un challenge sportif.
Ouais, c'est de passer, prendre du bon temps et s'amuser, voilà. Bah pour nous, ça s'est bien passé, donc super.
Bah on est content, ça fait penser un peu à autre chose, voilà. C'est cool, c'est vraiment cool, on est vraiment content de pouvoir jouer malgré tout ce qui se passe.
Et puis surtout une belle participation.
Ouais, clairement, 68 participants chez les hommes, enfin 68 équipes, ça fait du beau monde, donc ouais, il y a du challenge.
Des championnats territoriaux qui donneront l'occasion aux gagnantes et gagnants d'aller disputer les championnats de France 2024 prévus du 13 au 15 septembre dans la ville de Strasbourg, en métropole.
Merci Mickaël Juneski. 18h15, on termine avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et on vous écoute pour les détails.
Bien sûr, alors pas de vigilance particulière pour cette nuit. Eh bien, le ciel se dégagera sur l'ouest, ailleurs que les passages nuageux se feront fréquents ailleurs, donnant quelques averses sur l'est principalement. Sur l'ouest, le vent d'est-sud-est faiblira entre 5 et 10 nœuds. Ailleurs, l'alizé d'est-sud-est soufflera entre 15 et 20 nœuds et les températures minimales resteront entre 17 et 21 degrés en général et de 13 à 16 degrés sur l'ouest. Demain matin, sur l'ouest justement, le soleil s'imposera largement, même si des nuages s'inviteront sur le sud-ouest en cours de matinée. Ailleurs, les plaques de nuages bas seront nombreuses et donneront quelques ondées sur l'est. Le vent d'est à est-sud-est se rapproche des 15 nœuds, localement 15 à 20 nœuds sur la pointe nord et sur l'ouest, il restera plus faible entre 5 et 10 nœuds.